Un bébé qui est au sol, il utilise tout son corps pour se déplacer. Il utilise du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ça bouge de partout, ça se mobilise dans tous les plans. C'est variable, c'est fluide, c'est complexe. Et ça, c'est extraordinaire pour la construction globale, hein.
Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Michèle Forestier, une kinésithérapeute que vous connaissez peut-être si vous avez des enfants, car elle s'est spécialisée depuis des décennies dans le développement moteur du bébé. Auteur du fameux livre intitulé « De la naissance au premier pas », c'est justement cette expérience que je suis venu chercher auprès de Michèle. Car vous le savez, il est parfois compliqué de trouver de la cohérence au milieu de tout ce qu'on entend, que ce soit sur YouTube, les réseaux sociaux ou même dans les cabinets médicaux. Donc je me suis dit qu'une bonne discussion sans tabou, comme d'habitude, pourrait venir éclaircir nos idées concernant le sujet du développement moteur du bébé, que j'estime essentiel. Et comme vous l'imaginez, faire des podcasts nourrit ma curiosité mais a aussi un coût. Donc si vous écoutez Et surtout la santé gratuitement, sachez que c'est parce que je la sponsorise avec ma formation Ostéo et Sport, destinée aux ostéopathes désirant monter en compétences dans le domaine de la prise en charge du patient sportif. Via cette formation, en plus de rencontrer et d'apprendre auprès de pointures comme Jean-Marcel Ferret ou encore Denis Richer, tu feras partie de la communauté Ostéo et Sport que j'anime et dans laquelle des ostéopathes installés aux quatre coins de la France partagent régulièrement leurs cas cliniques, leurs challenges, leurs expérimentations. Bref, Ostéo et Sport est la solution pour te faire entrer dans une dynamique vertueuse grâce à laquelle tu ne ressentiras plus jamais cette désagréable sensation de stagner en tant qu'ostéopathe. Donc si cette formation t'intéresse, envoie-moi simplement un email à etienne.bulidon@gmail.com pour me le faire savoir et je te répondrai dès que possible. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite avec notre invitée du jour, Madame Michèle Forestier. Bonjour Michèle.
Bonjour Étienne.
Merci de me recevoir dans ton ancien cabinet, entre guillemets. Tu nous expliqueras. D'abord, il faut que tu nous expliques qui tu es. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce que tu as fait ?
Écoute, donc je suis Michèle Forestier, je suis kinésithérapeute depuis maintenant 50 ans. j'ai eu mon diplôme en 1973. Voilà. Donc j'ai eu, dans un premier temps, j'ai travaillé avec des enfants porteurs de handicap dans un IEM, un institut d'éducation motrice, avec des enfants porteurs de paralysie cérébrale. Et pendant toutes ces années-là, j'ai accompagné des enfants qui avaient entre 3 et 18 ans. Et à ce moment-là, c'était il y a très longtemps, on prenait très peu en charge, en soins, les bébés de 0 à 3 ans. Il n'y avait pratiquement aucune structure qui accompagnait ces enfants et leurs parents. Après, donc, au bout de ces 5 ans, j'ai fait le choix de déménager. Et donc, pendant quelques temps, j'ai arrêté mon travail. Et par la suite, j'ai été contactée par un de mes collègues qui m'a proposé de travailler avec lui en libéral. J'avais à cette époque 3 enfants jeunes et j'ai vite compris que ce n'était pas possible de continuer en cabinet avec mes petits. Et j'ai fait le choix de travailler uniquement au domicile de mes patients. Et en fait, je le dis tout le temps parce que cette manière de travailler, c'est ce qui m'a conduit où je suis aujourd'hui. Parce que j'ai vite compris, quand on prend des personnes en soins, alors là, c'était un panel assez large, hein, j'avais beaucoup de personnes âgées, j'avais des gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Et j'avais aussi des bébés, beaucoup de bébés en kiné respiratoire et des bébés en difficulté motrice aussi, puisque j'avais un petit peu cette formation hein, au départ. Ça m'a appris énormément de choses. La première chose que ça m'a appris, je crois, c'est que nous, en tant que thérapeutes, on voit nos patients 2 fois, 3 fois par semaine, à peu près une demi-heure à chaque fois, 3 quarts d'heure dans le meilleur des cas. Et puis, si on se contente de ça et qu'on n'éduque pas notre patient à la prise en soin de sa santé, on ne sera pas efficace. Et donc, j'ai très vite compris notre travail de pédagogie. Et donc, c'était encore plus vrai avec les bébés. Lorsque je prenais en soin un bébé, ça me paraissait évident d'impliquer les parents. de manière à ce que les parents puissent reproduire tout au long de la journée ce qu'on proposait pendant les séances de rééducation. Donc ça, c'est vraiment la première des choses pour moi. Alors, on parle beaucoup d'éducation thérapeutique aujourd'hui, mais moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait ça tout le temps. Je le faisais aussi avec les personnes âgées, leur proposer des exercices pour qu'ils les reproduisent, etc. Donc ça, ça me paraît fondamental, la répétition de tout ce qu'on propose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai très vite compris aussi l'influence de l'environnement. L'environnement humain et l'environnement matériel. Il y a des parents qui sont, qui sont presque trop présents auprès de leur enfant et qui ne leur laissent pas la liberté de bouger. Et donc, l'éducation thérapeutique, elle passe par là aussi, expliquer aux parents pourquoi on va faire telle ou telle chose et à quel point, justement, cet environnement va influer sur le développement du bébé. Donc ça, c'était vraiment des choses qui m'ont très vite marquée. Et puis, j'ai fait une rencontre à ce moment-là. Comme j'allais au domicile, ça impliquait, donc bien sûr, la famille, ça impliquait les assistantes maternelles et ça impliquait les crèches. Donc, j'allais dans les crèches et ça m'a permis d'observer des bébés en bonne santé parce que lorsque j'allais à la crèche, je voyais plein d'enfants autour. Et j'ai aussi rencontré le milieu de la petite enfance qui m'a beaucoup apporté. Parce que justement, là aussi, hein, j'y reviens, quand on est thérapeute, on connaît à peu près, on essaye de connaître l'enfant en difficulté. Mais le bébé sain, on ne le connaît pas forcément. Hein, quand on est jeune, on ne connaît pas forcément un bébé qui va bien. Et donc, comment prendre en soin un bébé qui ne va pas bien si on ne sait pas comment fonctionne un bébé qui va bien? Donc ça, ça m'a énormément apporté le fait d'observer des bébés. J'avais déjà eu mes propres enfants, mais observer d'autres bébés et puis l'attitude des adultes avec ces bébés autour, j'ai trouvé ça mais très très enrichissant et ça m'a beaucoup formée. Et je me suis dit, mais il faut absolument que pour tous les enfants en difficulté, eh bien, on puisse essayer de leur faire parcourir le même chemin que les enfants qui vont bien. Ça m'a paru vraiment logique, mais pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut connaître parfaitement le développement du bébé qui va bien.
Ouais.
Voilà.
Ça paraît très clair. Mmh. Et donc, toi, tu t'es quand même particulièrement intéressé à la période de 0 à 1 an, à peu près, en tout cas la période pendant laquelle le bébé va apprendre à marcher. Mmh. Pourquoi cette période et comment t'y es-tu intéressé? Parce que, ok, via l'observation, mais t'as aussi quelques influences et tu parles souvent, je crois, de Amy Pickler. Mmh.
C'est ça.
Et j'aimerais aussi savoir en quoi elle t'a influencé et si tu peux nous résumer un petit peu ses travaux pour qu'on comprenne le contexte.
Oui. Tout à fait. Alors, c'est vraiment tout à fait en lien de ce que j'ai dit auparavant, parce que justement, la rencontre de la petite enfance, c'est la rencontre de la petite enfance qui m'a permis de connaître les travaux d'Amy Pickler. Parce que dans le milieu médical, on connaît très peu Amy Pickler, alors que c'est une pédiatre hongroise, et elle est décédée en 81, donc il y a très longtemps. Elle était au départ pédiatre en ville. Et puis, elle avait observé pendant cet exercice-là que certains enfants étaient moins à l'aise dans leur corps, étaient plus vulnérables aux accidents de chute, par exemple. Et ces enfants-là étaient des enfants qui ne faisaient pas beaucoup d'expériences motrices. Et donc, dans les milieux les moins favorisés, où les enfants pouvaient bouger de partout, ils étaient moins vulnérables à tout ça. Et elle est devenue ensuite directrice d'une pouponnière, la pouponnière Loxy. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu l'idée, hein, elle a eu l'intuition que si on laisse le bébé, le tout petit bébé, évoluer par lui-même, hein, en l'accompagnant, etc., elle a observé plus de 700 enfants et elle a prouvé à travers ses études que le bébé apprend tout seul à marcher. Ce qui en soi est, me semble-t-il, complètement normal. C'est un petit mammifère, un bébé. Et du coup, il va apprendre à marcher si on le laisse faire, si on le met dans de bonnes conditions. Donc c'est grâce à la petite enfance que j'ai pris connaissance des travaux d'Amy Pickler.
Ok, et dans ta démarche, du coup, tu as été inspiré donc, par le terrain, comme tu l'as dit, par ces travaux-là. Et comment est-ce que tu as mis en place, je ne sais pas si on peut appeler ça des théories, mais ta philosophie, ta façon de penser, comment tu as rendu ça pratique et qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne, nous là qui écoutons, moi qui suis en train de te parler, de la période de 0 à 1 an, peut-être peux-tu nous parler des différentes étapes classiques qui mène à la marche.
Alors, justement, je parlais de la petite enfance. Quand on va dans les crèches, ou même chez les assistantes maternelles, donc il y a beaucoup d'enfants. Et j'ai constaté, dans cette observation et en échangeant avec le personnel de la petite enfance, qu'il y avait certaines difficultés rencontrées par certains enfants que j'ignorais complètement. Moi, j'étais dans la pathologie, mais certains enfants qui paraissent aller tout à fait bien, eh bien certains enfants se retrouvent à 9 mois, par exemple, bloqués en position assise. Et ça, ça interpelle le personnel de la petite enfance, parce que le personnel de la petite enfance, ils sont beaucoup plus compétents que nous dans l'observation du bébé, parce qu'ils ont la comparaison. Et quand ils voient un bébé qui est bloqué assis, et à côté, un bébé du même âge qui roule boule de partout et qui se déplace, ça les interpelle. Et donc, ça m'a permis de prendre en soin des bébés qui ne bougeaient pas suffisamment. J'ai observé aussi dans les crèches des enfants qui glissaient sur leurs fesses. Et je me suis dit, mais c'est pas logique. Un être vivant, c'est un être en mouvement. Mais c'est un être en mouvement avec un mouvement harmonieux, un mouvement fluide, un mouvement varié. Et ces enfants-là étaient bloqués dans leur motricité. Et donc, ça m'a interpellée par rapport à ce que j'avais pu apprendre auparavant, où on insistait beaucoup, notamment sur l'apprentissage des postures verticales et sur l'apprentissage des déplacements debout. Voilà comment j'en suis arrivée à me dire, eh bien, il faut absolument que le bébé se déplace le plus possible à l'horizontale, qu'il se déplace, et c'est lui qui va construire à travers ses expériences, qui va arriver tout naturellement à la position debout et à la marche. Et ça, avec Amy Pickler, bien sûr, c'est ce qu'elle a prouvé aussi.
Ça y est, j'ai plein de questions qui arrivent là, c'est bon signe. Mais du coup, on sait très bien que les enfants vont marcher à des âges différents, vont se retourner à des âges différents. Et souvent, on nous rassure en disant « oui, bon, chacun son rythme ». Alors, la première question, c'est à quel moment est-ce qu'il faut se dire « là, il y a quelque chose qui ne va pas ?» Parce que je pense quand même que plus on voit ça précocement, mieux c'est dans la prise en charge. Ça, c'est la première question. Et ouais, on va rester sur cette question, sinon ça va faire trop.
Voilà. Déjà, là, il y a pas mal de choses à dire. La première des choses, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment toujours, toujours ça qu'il faut regarder. C'est quand on est devant un tout petit bébé, c'est l'interaction. C'est ce petit bébé qui, à un mois, doit accrocher vraiment le regard, doit avoir envie de sourire, avoir envie de partager, de parler avec l'adulte. Hein. Quand je dis parler, évidemment, le langage bébé. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut observer. Et si on est devant un bébé de 2 mois, par exemple, et qu'on voit que ce bébé n'accroche pas le regard, bon, là, il faut déjà tout de suite s'inquiéter. Donc ça, c'est déjà...
qu'est-ce qu'on fait ? On s'inquiète, mais on fait quoi, du coup ?
Alors, en tant que thérapeute, attention de ne pas... d'abord, moi, je pense que la première des choses, c'est écouter les parents. Parce que si le parent n'est pas du tout inquiet, c'est pas nous qui allons l'inquiéter, évidemment. Mais par contre, on va peut-être pouvoir lui poser des questions, lui demander comment il ressent les choses, etc. Et par contre, si le parent est inquiet, alors là, on va réfléchir ensemble. Et puis, dans ce cas-là, la première des choses, c'est en parler au pédiatre. Ça, c'est la première
des choses. Le pédiatre est-il sensible à ça ? Si on lui amène un bébé de 2 mois, enfin, moi, j'imagine bien le pédiatre. Désolé s'il y en a qui écoutent, mais il dit « Oh non, ça va, ça va ». Enfin, moi, plein de patients me disent « On a vu le pédiatre, il dit que c'est rien. La tête, elle est plate. Non, mais il dit que ça va aller.
» Ouais. Et là, moi, je pense qu'il faut insister, quoi. Et je pense que pour nous tous, quel que soit le métier qu'on fait, qu'on soit pédiatre, ostéo, kiné, quel que soit le métier qu'on fait, c'est la première des choses à constater, c'est l'interaction du bébé. Et ça se voit très très vite. Hein. Moi, hier soir, j'étais devant un petit bébé qui a 1 mois et demi, mais c'était magique. Le lien, quand j'ai commencé à lui parler, ses yeux qui se sont mis à être vivants et qui échangeaient avec moi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première des choses.
Et donc du coup, si, admettons, le pédiatre nous dit « non, c'est rien », etc., mais que la personne qui a son petit bébé qui ne réagit pas trop, là, écoute ce podcast, que lui dirais-tu ? Que lui conseillerais-tu ?
Ben juste pourquoi pour pas, si vraiment elle ne se sent pas écoutée, pourquoi pas aller voir quelqu'un d'autre, mettons pourquoi pas le médecin généraliste, en parler autour d'eux. Si par exemple c'est un enfant qui est... Alors ils sont trop petits pour être à la crèche à ce moment-là, mais échanger avec d'autres personnes et parler de... Et puis pourquoi pas... Alors, évidemment, on peut consulter un ostéopathe, spécialisé en pédiatrie, c'est mieux. Et on peut aussi, pourquoi pas aller voir un psychomotricien. Enfin, vraiment, essayer de trouver des personnes autour d'eux qui vont les écouter.
Ouais, ok. Et c'est compliqué, okay pour ça, mais les écouter, ça va pas forcément stimuler le petit. Alors, j'entends très bien la démarche, mais concrètement, dans la seconde après avoir écouté ce podcast, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place, des stimulations, etc., pour que le bébé s'éveille un petit peu plus? Et quelles sont les causes de ce non-éveil potentiel?
Alors, les causes, c'est hyper difficile. C'est vraiment très, très vaste. C'est un signe d'alerte. C'est un signe qui nous interpelle. Un bébé qui n'entre pas en lien, c'est un signe qui nous interpelle. Donc, ce qui peut se faire, c'est justement essayer, dans tous les moments de la vie quotidienne, d'être de plus en plus en lien avec ce bébé, au moment du change, au moment du biberon, regarder. Puis si vraiment on s'inquiète de ça, alors, encore une fois, heureusement, c'est rare, mais ça peut arriver. C'est quand même un des premiers signes qui nous interpelle. Et si vraiment la personne n'est pas écoutée, eh bien, elle reprend un autre rendez-vous si ça continue. Parce qu'effectivement, ça peut... il y a certains enfants qui mettent un petit peu plus de temps à entrer en lien.
Donc si je traduis, le parent, vous conseilleriez aux parents d'être dans une intention de partage et de connexion avec son bébé encore plus si encore on plus. Voit que le bébé a du mal à accrocher.
Oui.
C'est ça.
Oui. Okay. Et puis s'il ne répond pas, dans ce cas-là, il faut retourner chez le pédiatre et dire, je n'y arrive pas. Et le pédiatre va écouter.
Oui, il va écouter, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il va conseiller de plus?
Alors, dans ces cas-là, moi, en tout cas, ce que je souhaiterais vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles je suis encore là à mon âge, c'est vraiment de... Il vaut mieux prendre en soin un bébé pour rien que de laisser cet enfant évoluer et ses parents dans l'inquiétude. Alors, il y a deux possibilités. Soit on va voir un psychomotricien, ou alors on va voir un kinésithérapeute. Alors, les deux, pour le bébé tout petit, nos fonctions sont différentes, mais pas, très, très, pas si éloignées que ça. La différence, elle est essentiellement pratique. C'est que nous, kinésithérapeutes, on travaille sur ordonnance du médecin et les psychomotriciens non. Mais en général, alors j'exagère un peu parce que c'est pas tout à fait exact ce que je suis en train de dire, parce que souvent les psychomotriciens interviennent suite à une ordonnance du médecin, mais la grosse différence c'est que eux ne sont pas remboursés, alors que nous les kinés on est remboursés. Alors dans ce cas-là, on peut toujours prendre l'initiative de prendre un rendez-vous avec un psychomotricien ou un kiné. Et je dis le psychomotricien en premier parce que c'est peut-être plus facile sur le plan pratique. Mais évidemment, comme je suis kinésithérapeute, moi, j'aurais tendance à dire aussi que... Mais après, la première personne qui peut aider ses parents et aider le bébé. Alors... ce que va faire ce praticien-là, il va faire un bilan, il va observer. Si l'inquiétude est confirmée, eh bien, dans ce cas-là, on propose, on fait un bilan, on dit, retournez voir le médecin, moi je vous donne un bilan, et puis on prend soin de bébé. Et après, peut-être que 2 mois après, 3 mois après, tout ira très bien. Mais s'il s'agit d'une grosse difficulté, eh bien, au moins cet enfant, il est pris en soin.
Ouais. Moi, ma question, j'ai bien compris, et je pense que tous ceux qui écoutent ont compris qu'il faut prendre en soin, etc., les consulter, mais c'était vraiment que va proposer le thérapeute, en fait. Quels sont les axes thérapeutiques qu'est-ce qu'il va faire le bébé, en fait, chez le kiné? Est-ce que vous allez lui faire faire des mouvements? Est-ce que vous allez lui faire travailler ses yeux? Enfin, quels sont les axes principaux, en fait, d'éveil?
Oui. Oui, bien sûr. Alors, un tout petit... La première des choses, justement, c'est on va travailler, entre guillemets. Alors moi, ce que je tiens aussi à dire par rapport à je vais revenir juste un tout petit peu sur ce qu'on disait au début, par rapport à l'apport d'Amy Pickler. Je pense que donc le bébé, il va avoir un chemin qui va se poursuivre grâce à la maturation cérébrale. Ce bébé, c'est un être vivant, c'est un être en mouvement. La maturation cérébrale va le conduire à pouvoir se déplacer comme n'importe quel être vivant. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que donc, nous, on va essayer de lui permettre de franchir ces étapes-là et ce chemin. Et l'idée, c'est d'être en lien avec le bébé, d'être en lien avec ses parents et de toujours avoir derrière soi l'idée de la bienveillance, du respect et du jeu. Alors, avec un tout petit bébé, c'est pas la même chose, mais avec un bébé un petit peu plus grand. Donc, il ne s'agit pas de faire à tout prix plein d'exercices, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est d'accompagner le bébé et de jouer avec lui de manière à ce que, si tout seul il ne trouve pas les compétences qu'il devrait avoir à tel ou tel âge, eh bien nous, on va le guider vers ces compétences-là et on va faire en sorte, moi j'aime bien ce terme-là, de libérer sa motricité. Parce que si, par exemple, chez un tout petit, je reviendrai sur le nourrisson après, mais chez un tout petit, par exemple, si on l'enroule, on lui montre ses pieds, et puis qu'après, lui, tout seul, il va trouver comment attraper ses pieds, on n'aura plus besoin d'y revenir, ça, ce sera fait, et il va le reproduire dans la journée. C'est ainsi qu'il va se rééduquer en jouant toute la journée avec ses pieds. Donc, nous, l'idée, c'est de libérer sa motricité. Alors, chez un tout petit qui n'est pas en lien, par exemple, il arrive, il a un mois, les parents sont un peu inquiets. Alors, c'est vrai que c'est relativement rare quand on les a si petits, et pourtant, il faudrait. On va déjà jouer avec le bébé, essayer d'accrocher son regard, de lui faire des petites stimulations visuelles. On va montrer aux parents, par exemple, comment le prendre dans les bras. Parce que prendre un bébé dans les bras, on peut l'aider dans sa motricité en le faisant rouler sur le côté et en le prenant d'une certaine manière. On va montrer, alors une des premières choses aussi qu'on va expliquer aux parents, c'est le chemin que va prendre le bébé. Toute cette pédagogie pour que les parents adhèrent à ce qu'on va leur proposer, il faut qu'ils comprennent très bien le sens de ce qu'on va leur proposer. Donc on va leur expliquer, on va leur expliquer le chemin qui va mener à la marche, on va leur expliquer que le bébé il va aller à son rythme, que nous on va être là pour l'observer, on va leur apprendre aussi à observer le bébé pour qu'ils nous renvoient leur observation dans la vie quotidienne. Et puis, on va leur dire, comme je viens de le dire, prenez votre bébé de cette manière-là. On va leur dire, pour le porter, portez-le de cette façon-là, et on va leur expliquer pourquoi. Donc chez un tout petit bébé, c'est surtout à travers ces gestes de la vie quotidienne qu'on va informer les parents. Et puis tout simplement, on va leur montrer. Et on va leur dire, allez, prenez votre bébé. Et puis on va leur dire, regardez, mettez votre main plutôt ici. Voilà, c'est notre travail de pédagogie.
Ok, je vois bien l'idée de montrer le chemin, montrer déjà la ligne d'arrivée, entre guillemets, qu'on va imaginer comme la marche, le bébé qui marche seul, et montrer donc cette ligne d'arrivée et le chemin du bébé pour y arriver étape par étape. Quoi.
C'est ça.
Exemple, il ne se retourne pas à 5 mois, il ne se retourne toujours pas, on va lui mettre le bras d'une certaine manière sur le sol pour lui montrer le passage, etc., qui l'intègre ça. Ça, c'est comment dire, j'estime que c'est un petit peu du bon sens. C'est très facile à comprendre. D'ailleurs, ça m'étonne que si peu de gens connaissent. Et l'autre chose, en fait, je voulais essayer de t'amener sur... moi, je suis assez fan, c'est un grand mot, mais j'ai été pas mal inspiré dans ma vie par Winnicott et ses concepts de holding, handling, etc. Et je pensais que tu allais venir là pour moi créer du lien avec vraiment le petit, le nourrisson. Passe normalement par le contact, en fait, par l'intention que tu mets avec ton bébé. Mais Winnicott dit toujours qu'en fait, la mère sait, en fait. Il faut qu'elle s'écoute, etc., etc., parce que instinctivement, c'est une mammifère, un mammifère, et il sait, elle sait. Et je trouve que des fois, le fait de donner trop de conseils coupe la mère de ce savoir, je sais pas comment on peut dire, ancestral, quoi.
Oui.
Que penses-tu de ça ?
Là, moi, je suis complètement d'accord par rapport à ça, parce que l'idée n'est pas, encore une fois, de faire des exercices à tout prix. Ça me paraît fondamental. Le lien avec le bébé, mais justement, il y a dans la manière de saisir un bébé, par exemple, ça, c'est pas quelque chose qui est intuitif. Et donc, on va proposer une manière de saisir le bébé qui va permettre ce lien, qui va permettre ce holding et qui va justement aller dans le sens de la motricité. Et je pense aussi que une maman ou un papa, intuitivement, ils ne savent pas forcément le chemin qui mène le bébé vers la marche et quelles sont les erreurs qu'il faudrait ne pas commettre. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se transmet de génération en génération. Et si je pense effectivement que l'instinct maternel, entre guillemets, toute ce soin que va apporter la maman ou le papa à son bébé, il y a tout ce côté affectif, ce côté du portage, etc. Mais ça n'est pas forcément fait d'une manière qui va rassurer le bébé.
Je vois très bien. Et quelle est l'intention, quelle est l'importance de l'intention de ce que tu fais quand tu fais les choses avec le bébé? Tu vois ce que je veux dire? Il y a faire de manière très mécanique et faire avec une intention. Exemple, là, je te pose une question avec une certaine intention, ou alors je te pose une question parce que je la lis sur ma feuille.
Ah non, l'intention, l'intention, c'est la bienveillance, c'est... le bébé, c'est un bébé. Moi, je dis toujours, lors des formations, je dis toujours, vous avez devant vous un être humain. Le bébé et un autre être humain, son parent. Et que ça... on ne peut absolument pas faire l'impasse de cette réalité-là. Et donc, le respect de la personne, il passe par le respect du bébé aussi. C'est-à-dire que, un exemple très simple, lorsque un parent arrive avec son bébé dans les bras, moi, la première chose que je fais, je parle au bébé. Je ne regarde pas le parent, je parle au bébé. Et ça me paraît fondamental. Il faut parler au bébé, il faut lui parler, le toucher, le...
Et puis même quand il est dans le ventre, en fait. Je sais pas si tu as traité des femmes enceintes, mais...
Bien sûr, je connais pas suffisamment. Mais bien sûr, ce que je veux dire, moi, en tant que thérapeute, pour moi, ça me paraît fondamental d'aborder d'abord le bébé. Et quand je suis avec ce bébé dans une salle, je parle avec lui, je le touche, je lui explique. Je lui dis, tu vois, je vais te mettre sur le ventre. Tu vas rester un petit peu sur le ventre, tu vas pouvoir poser ta tête, tu vas être bien. Ça me paraît fondamental de parler avec le bébé.
Ouais, super. Petite dédicace à Nathalie Lancelin, que je t'invite à écouter l'épisode avec elle, qui est une psychologue spécialisée en périnatalité, avec qui on a fait un podcast... il y a plusieurs mois de ça, mais qui est génial et on parle beaucoup de ça dedans. Mmh. Et donc, est-ce que tu peux résumer, on va dire, en 1 minute 30, pour éclaircir les choses, les étapes principales qui amènent à la marche?
Alors, les étapes principales, moi, je les décris en 3 phases. Il y a tellement longtemps que je dis ça, je sais plus si c'est moi qui l'ai décrit ou si je l'ai lu quelque part, mais ça fait au moins... 35 ans que je dis ça.
Ouais, parfait.
3 phases. Une première phase où le bébé, j'ai appelé ça la découverte du corps. C'est-à-dire que le bébé, il est en position horizontale, soit sur le dos, soit sur le côté, soit sur le ventre. Et ce bébé, pendant ces positions, on ne se rend pas compte. Mais alors, il bouge beaucoup. Il va, évidemment... alors, je les décrirai peut-être un peu plus, parce que là, j'ai une minute et demie, donc il faut que j'aille plus vite. Donc, il va beaucoup bouger, il va commencer à travailler sa tonicité, il va commencer à travailler une certaine coordination, il va pouvoir connaître l'ensemble de son corps, connaître ses mains, connaître ses pieds, et bouger. Il va énormément bouger. Et en fait, moi, j'ai appelé ça, cette découverte du corps, c'est vraiment les fondations. Parce que le bébé... toutes les découvertes qu'il fait à ce moment-là, il va les utiliser plus tard pour pouvoir se déplacer. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est que le bébé, il est posé. C'est-à-dire qu'il va avoir moins à lutter contre la pesanteur. Un petit peu, mais pas beaucoup. Et évidemment, pas de risque de chute. Donc ça, c'est la première phase, la découverte du corps. La deuxième phase, il va découvrir l'espace. Et... pourquoi il peut découvrir l'espace? Parce que justement, il a fait énormément d'expériences dans ces 3 positions dos, côté, ventre. Et il va faire le lien entre ces 3 positions. Alors déjà, en se retournant, dos, côté, ventre. Il va pouvoir changer de position, choisir sa position. Et une fois qu'il aura bien maîtrisé le dos-ventre et le ventre-dos, la transition entre le dos, le ventre et le ventre-dos, eh bien, il va pouvoir, pourquoi pas, enchaîner ses retournements pour pouvoir commencer à se déplacer. Et là, il va commencer à découvrir l'espace. Il va analyser l'espace et il va découvrir l'espace. Donc, il commence par se retourner. Ensuite, une fois que, quand l'enfant a la possibilité de faire ça, on le pose sur le dos, il va vite se retourner sur le ventre. Il a une meilleure visibilité lorsqu'il est sur le ventre et il va avoir envie de glisser. Donc, il va commencer à glisser à 360 et puis après, il va pouvoir ramper vers l'avant. Il rampe vers l'avant grâce à la propulsion sur ses membres supérieurs qu'il a travaillé quand il était à plat ventre. Donc, une fois qu'il rampe, ce bébé, il va partout. L'avantage, c'est qu'il glisse. Là, il va travailler la coordination encore plus. Il va travailler les amplitudes articulaires. Il va travailler sa tonicité. Et puis, petit à petit, il va se repousser pour s'installer à quatre pattes et faire du quatre pattes. Donc ça, c'est la deuxième phase découverte de l'espace. Et la troisième phase, j'ai appelé la découverte de la verticalité, c'est qu'à partir du quatre pattes, ce bébé, il va pouvoir repousser sur ses bras et s'installer assis. Et c'est là où la position assise, beaucoup attachent énormément d'importance à la position assise. Alors, elle nécessite un minimum de tonicité axiale, mais la tonicité axiale, elle s'installe d'une manière naturelle. Mais la position assise, c'est là où le fait d'observer des bébés dans leur milieu, j'ai pu constater ça, c'est qu'un bébé ne reste pas en position assise quand il a le choix de s'y installer et d'en sortir. Donc c'est une position de transition. Il va s'installer assis, reste quelques secondes et puis repart. Parce que ce qui lui plaît, c'est d'explorer l'espace. Donc ensuite, il va se mettre à genoux, se mettre en chevalier servant, se mettre debout et puis il va pouvoir marcher. Bon, après des étapes assez bien définies. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ça, il le fait tout seul. Quand il est dans de bonnes conditions, il n'a pas besoin que l'adulte intervienne.
Et justement, quelles sont les conditions classiques, on va dire les erreurs à éviter pour... Alors, je vais poser la question différemment. Que faire pour faire foirer ces étapes et qu'est-ce qui se fait classiquement qui est des bugs en fait.
Qui est des bugs. Ouais. Alors, la première erreur, c'est une erreur que font énormément de parents, c'est de laisser les bébés, très souvent, quand ils ne sont pas dans les bras, de laisser les bébés en position semi-horizontale. On les installe dans les transats, ouais. On les installe dans les doumeaux, on les installe sur le canapé, dans le coussin d'allaitement, en position semi-horizontale. Si on fait une vidéo d'un enfant dans un transat et une vidéo d'un enfant sur un tapis, on voit une grosse différence dans la mobilité du bébé. Et donc, un bébé qui est tout le temps installé dans un transat, c'est un bébé qui va beaucoup moins bouger. Je peux peut-être faire une petite parenthèse là, juste par rapport aux mouvements généraux. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer, l'observation du bébé. Il y a, on appelle ça les general movements, et qui c'est une observation du bébé. On filme le bébé sur le sol, enfin sur un tapis, et on observe des mouvements précis. On observe la variabilité des mouvements, la fluidité, la complexité, et on peut en déduire certaines difficultés, notamment pour les paralysies cérébrales. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et on peut justement, tout simplement, nous déjà, observer qu'un bébé dans un transat, un bébé bouge beaucoup moins qu'un bébé sur le sol.
Oh ben ça, c'est du bon sens. Ça... On imagine le bébé dans le transat coincé qui ne va pas se développer, comme l'adulte sédentaire qui passe 8 heures par jour devant un écran sans rien faire.
Bon, voilà.
Ça, c'est du bon sens, on va dire.
Moi, j'ai l'impression que tout ce que je dis, c'est tellement du bon sens que... Enfin, oui, ça me paraît tellement évident que c'est mieux de bouger. Un être vivant, c'est un être qui peut bouger. Mais il faut être dans une condition qui nous permet de bouger. Donc ça, c'est la première erreur.
La première erreur. On enchaîne avec les autres erreurs juste après. Mais du coup, pour éviter cette première erreur, corrige-moi si je me trompe, mais j'imagine qu'il faut bannir, c'est un grand mot, mais éviter enfin, le couffin, okay, le cosy pour faire un déplacement en voiture, oui. Mais sinon, favoriser beaucoup, beaucoup le sol, tout simplement.
Bien sûr, tout simplement.
D'accord. Okay.
Le bébé à plat. Et se dire que ben un bébé, un tout petit bébé, les seules conditions qui lui permettent de réellement bouger, c'est quand il est sur le dos ou sur le ventre.
Ouais, petite parenthèse par rapport à ça, on revient après à la, à la deuxième erreur, mais moi j'avais en tête, puis vu que je suis un peu dans le sport, etc., je mettais beaucoup mon bébé sur le ventre, je me disais, hop, c'est bien, ça le gaine, etc., il redresse sa tête, sa chaîne postérieure, ce muscle, etc., etc. Combien d'heures par jour, combien de fois par jour est-ce que tu préconises la position sur le ventre quand le bébé n'arrive pas encore à se retourner tout seul?
Alors ça, oui, ça, c'est intéressant de venir là-dessus, parce que quand même, cette position sur le ventre, alors moi j'ai évolué au fur et à mesure des années, toutes ces années d'observation, je pense que je n'insistais pas suffisamment dans les années précédentes, il y a longtemps quand même en arrière, mais sur les deux volets de la position plat-ventre. Parce que la position plat-ventre, on a toujours tendance à penser plus, le bébé redresse sa tête, et on s'arrête là, souvent. Moi la première, il y a 20 ans en arrière. Il faut bien penser que la position plat-ventre, c'est avant pour le tout petit bébé qui vient de naître. D'abord, c'est la première position qu'il va découvrir en sortant du ventre de sa maman. Hein. Il va se mettre sur le ventre de sa maman. Et donc là, il va poser sa tête. Il n'est pas capable de la maintenir relevée, il peut la changer de direction, mais il ne peut pas la maintenir relevée. Donc cette position de relâchement à plat-ventre, c'est une capacité qu'il a dès la naissance. Et il faut vraiment bien penser à cette position de relâchement parce qu'elle va l'aider quand il va être un peu plus grand, 5-6 mois ou même avant, lorsqu'il va être sur le ventre, il va avoir des moments où il faut qu'il soit en capacité de poser sa tête. Ça, c'est fondamental. Hein, on n'y pense pas toujours. Et puis, le deuxième volet, c'est la position dynamique. C'est la position du bébé qui est capable de maintenir sa tête. Mais là aussi, il y a deux volets. Il y a la tonicité et puis il y a la mobilité. Et un bébé sur le ventre, il est mobile aussi. Donc si on propose la position plat-ventre dès la naissance au bébé, il va garder cette capacité de relâchement. Si on attend qu'il ait 4 mois ou qu'il sache se retourner pour lui proposer cette position plat-ventre, cette capacité à se relâcher, peut-être qu'il l'aura moins. Donc c'est une des raisons qui fait qu'il faut proposer le plat-ventre au bébé. Alors je reviens à la question de tout à l'heure. Dans les recommandations de l'OMS, dans les recommandations de l'HAS, c'est 30 minutes de plat-ventre cumulé sur une journée pour le tout petit. Mais pas forcément 30 minutes. C'est cumulé. Alors ça veut dire, si, pourquoi pas, quelques minutes, 5-6 minutes, plusieurs fois par jour. C'est la répétition qui va faire que ce petit, il va apprendre ces deux volets, le relâchement et la tonicité.
Parfait.
Alors je sais, juste je fais une petite parenthèse qui me paraît importante parce que dans toute la théorie entre guillemets d'Amy Pickler, Amy Pickler, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est elle qui est à l'origine de la motricité libre. La motricité libre, on en parle beaucoup. Moi je me suis complètement basée là-dessus pour mes prises en soins. Libérer la motricité, dès que le bébé sait faire tout seul, il faut qu'il utilise cette motricité, il faut qu'il s'entraîne. Mais souvent, on recommande en motricité libre de ne pas mettre un bébé à plat ventre s'il ne sait pas se retourner, tant qu'il ne sait pas se retourner du dos sur le ventre. Et de mon point de vue, alors d'abord, ça ne correspond pas aux recommandations déjà. Et moi, je pense vraiment qu'un enfant qui a connu la position plat ventre, ses deux volets, surtout le relâchement tout petit, c'est un bébé qui ira beaucoup plus facilement sur le ventre, qui saura mieux faire ses retournements, et puis qui surtout ne sera pas paniqué. Et je pense aussi, d'après les analyses que j'en ai faites, que plus il est à l'aise à plat ventre, mieux il saura se retourner. Donc voilà, les recommandations, c'est 30 minutes cumulées, et puis après, c'est le bébé qui décidera.
Super, c'est très clair. On passe à la deuxième erreur, la plus fréquente que tu as pu observer.
Alors, la deuxième erreur, au niveau chronologique, je pense qu'on voit beaucoup d'enfants. Alors, il y en a deux. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vais peut-être aller plutôt là-dessus. On a tendance, quand on a le bébé dans les bras, sur les genoux par exemple, on a tendance à l'installer plutôt en position assise. Plutôt que de le laisser se relâcher, on a tendance à plutôt l'installer sur les genoux en position assise. Et ce petit, qui grâce à la maturation cérébrale va commencer à maintenir sa tête, à 3 mois il doit maintenir sa tête sur ses épaules, et puis après vers 5-6 mois il commence à avoir une bonne tonicité axiale. Mais on est piégé par ça, parce que ce bébé, au lieu de le laisser se reposer, eh bien il va se mettre assis sur les genoux des parents, Et puis, il va se mettre un peu en tension pour maintenir et puis tourner un petit peu sa petite tête. Donc ça, c'est une, de mon point de vue, une erreur aussi que font les parents de ne pas laisser le bébé suffisamment se relâcher dans les bras. Une autre erreur, c'est de prendre le bébé sous les aisselles et de lui faire pousser sur ses jambes. Alors, il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe du sauteur, hein, que le bébé a autour de 5 mois, qui fait qu'il va pousser spontanément sur ses jambes quand on le prend sous les aisselles. Et les parents sont tout contents parce qu'ils disent « Ouais, super, il va marcher tôt parce qu'il pousse sur ses jambes » et ils l'incitent à pousser sur ses jambes. Et ça, ça conduit le bébé trop tôt à la verticalité puisque tout seul, il n'est pas capable de le faire. Et solliciter ça, ça peut conduire le bébé à vouloir être debout trop tôt. Donc ça, c'est aussi une erreur à ne pas faire.
Ouais, je te coupe un tout petit peu après tu reprends, mais encore une fois, ça me paraît être quelque chose de l'ordre du bon sens. Ce sera un petit peu comme apprendre des multiplications avant d'avoir appris des soustractions, quoi.
Exactement, okay. Bien sûr.
Parfait, je te laisse enchaîner.
Et bien je saisis la balle au bon, parce que justement, dans ce chemin-là, qui mène le bébé à la marche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment comme une construction. Moi, j'explique souvent aux parents, c'est comme une maison. Quand on construit une maison, on met les fondations, puis après, on met les pierres, les unes après les autres, les unes dessus les autres, et on ne laisse pas des trous. Alors, les trous, il y a les fenêtres, hein, mais il faut que la construction, elle se fasse de manière progressive. Et surtout, j'ai l'habitude de dire que chaque étape, elle va préparer la suivante. Je l'ai dit par rapport, par exemple, au plat ventre, la capacité à se relâcher, par exemple, sur le ventre, va permettre au bébé de savoir passer du ventre sur le dos. Et donc, la capacité du bébé sur le dos à s'enrouler va lui permettre de passer du dos sur le ventre. Donc, chaque étape, elle va préparer la suivante. Et il ne sert à rien d'aller vers une étape trop loin parce que le bébé ne la construit pas. Donc c'est ça tout le sens de ce travail de construction. Hein, c'est vraiment de s'appuyer sur une étape. Donc là, typiquement, le bébé ne sait pas... alors le réflexe qui consiste à pousser, le réflexe du sauteur hein, qu'on constate, il est appelé à disparaître. Mais ce n'est pas parce qu'il saute sur ses jambes qu'il est capable de rester debout, puisqu'il faut attendre qu'il s'installe debout tout seul.
Tu sais ce qu'il faudrait faire, je ne sais pas si ça existe, mais ce qui serait intéressant, tu pourrais le faire toi, un poster Michel Forestier avec des dessins, tu vois, et le bébé et toutes les étapes à offrir au bébé, enfin aux parents.
Je les ai. J'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai une avec des dessins et j'en ai une que je te montrerai. J'en ai deux, en fait.
Moi, bon, génial.
Ouais. Oui. Donc, si on parle des erreurs, on revient aux erreurs. Hein. L'erreur avec un grand E que font l'immense majorité des parents, c'est que effectivement, dès qu'ils s'aperçoivent que leur bébé tient bien son dos, je le dis de cette manière-là parce que c'est comme ça que les parents l'expriment, eh bien, on le pose assis. On le pose assis sur le tapis et on met des coussins derrière. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on pense que le bébé voit mieux et on pense que le bébé peut mieux manipuler. Ça, c'est vraiment... Et puis, voilà, on a l'impression que ça rassure sur son développement. Oui, il se tient super bien assis. Et puis, on se dit, il s'ennuie moins, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'erreur, moi, que j'ai appris avec la petite enfance. Hein. Avant, je n'avais pas conscience de cette erreur-là. Mais, alors, quand on y pense, là aussi, c'est du bon sens. Un être vivant, c'est un être en mouvement. Donc, quand on pose un bébé assis qui ne sait pas s'installer assis tout seul et qui ne sait pas en sortir, on ne lui donne pas la liberté, on le bloque. Parce qu'on dit, certes, il peut manipuler parce qu'il a les mains libres. Sauf que, ne lui donnons rien, il ne va rien pouvoir manipuler. L'important, c'est qu'il manipule quelque chose qu'il peut aller chercher. Mais si il n'a rien à sa portée, il ne va rien faire. Il ne va pas pouvoir manipuler. Et puis, ce n'est pas comme ça qu'il va aussi apprendre à se protéger. Hein, on est obligé de lui mettre des coussins derrière. Alors que le bébé qui arrive assis tout seul, eh bien, il se lâche uniquement quand il sent qu'il est prêt. Et puis, il va s'installer assis, puis il va repartir. Donc, on ne devrait jamais voir un bébé assis au sol, je parle de la position assise au sol, hein, qui ne sait pas s'installer, mais surtout qui ne sait pas en sortir. Donc ça, c'est la deuxième erreur.
Ouais, comme tu dis, ouais, enfin, erreur classique et oui. C'est du bon sens. Alors, avant de passer aux autres erreurs, parce que j'en ai aussi en tête des erreurs que j'aimerais qu'on décortique, mais que se passe-t-il si, dans la construction de cette maison, on oublie le mur, enfin une partie du mur, et qu'on met le toit et qu'on poursuit, mais qu'on n'a pas construit tout le mur? Quelles sont les conséquences potentielles à court, moyen, long terme?
Alors... On va parler de l'erreur de la position assise, par
admettons,
exemple.
Admettons, oui.
Admettons. Parce que vraiment, mais ça, je l'ai vu énormément. Et quand on en parle avec la petite enfance, c'est vraiment quelque chose que tout le monde constate. Alors, je vais juste faire quand même une petite parenthèse. C'est l'examen chez le pédiatre des 8 mois qui fait qu'on va vérifier si la tonicité axiale est bonne et si ce bébé, quand on le pose assis, s'il maintient son dos. Donc ça fait partie des tests qui sont faits et qui rassurent.
Je te juste fais une parenthèse aussi dans la parenthèse, mais tu sais, dans le sport, par exemple, il y a des médecins du sport, enfin des médecins qui vont être généralistes puis qui vont mettre leur plaque médecin du sport parce qu'ils ont fait un DU de 2 jours, enfin un DU, même pas un DU, mais une formation d'un week-end médecin du sport. Ils voient un patient sportif par jour, peut-être deux, et ils disent médecin du sport. Et les médecins généralistes qui se disent... qui font de la pédiatrie, qui ne sont pas pédiatres, mais ils disent « ouais, moi je fais de la pédiatrie », mais qui voient au final peut-être 3 gamins par jour. Sont-ils, selon toi, légitimes? Ont-ils assez d'expérience? Moi, un médecin généraliste qui voit 2 patients par jour sportifs, pour moi, n'est pas médecin du sport. Or, c'est marqué sur sa plaque. Que penses-tu de ces médecins généralistes qui font de la pédiatrie?
Alors, c'est vraiment délicat comme question. Surtout, je ne mettrai jamais en doute la sincérité des médecins et leur conscience professionnelle, bien sûr. Effectivement, pour pouvoir comprendre comment fonctionne un bébé, il faut vraiment en voir beaucoup. Et donc, c'est compliqué. Par contre, si je reviens à ce test de la position assise, ça fait partie des tests qu'on apprend et qu'il faut absolument regarder.
On l'apprend où ?
Ah ben, dans les études, ça fait partie de l'examen.
Cursus général ?
Oui.
Dans les études de médecine
générale ? Oui, quand même. Oui, ça s'apprend. Et donc, ça fait partie des tests qui sont connus de tout le monde. Il y a le tirer assis lorsque le bébé est sur le dos, il y a le maintien de la position assise. Ce sont les critères qui sont marqués sur le carnet de santé. Alors, c'est vrai que quand on n'a pas trop l'habitude d'observer des bébés, c'est compliqué, sauf qu'il n'y a pas franchement le choix, malheureusement. Il y a de moins en moins de pédiatres. Et c'est quand même très, très compliqué. Donc c'est un petit peu délicat comme question. Moi, je crois que le plus important de la part des médecins, c'est d'abord d'écouter vraiment les parents et qu'ils n'hésitent pas à orienter vers des personnes comme les kinés ou alors je dis les kinés spécialisés qui connaissent bien la pédiatrie, c'est la même chose, hein. C'est la même chose. Moi, on me demande d'intervenir chez quelqu'un, par exemple, qui a mal au dos. Je ne l'ai pas assez fait, je ne suis pas assez compétente.
Complètement, il n'y a pas de tabou à ça. Hein.
Voilà,
moi, je ne suis pas assez compétente dans plein de trucs. Hein.
Voilà, donc il faut reconnaître là où on a moins de compétences et ne pas hésiter à faire appel à des gens qui sont plus compétents. Et notamment, quand les parents expriment une inquiétude, dire écoutez, j'entends que vous êtes effectivement inquiet. Je vous propose d'aller faire un bilan chez un kiné, chez une psychomotricien, par exemple.
Ok. Et moi, je conseillerais aux parents, tu me diras ce que tu en penses, mais d'être proactif. C'est-à-dire que si on voit que le médecin, il l'examine sur la table en une minute, il pose 2-3 questions, il mange bien, il dort bien, ok, bon, allez, ciao. Il a fait ses vaccins, parce que ça, c'est le gros focus, les vaccins. Mais il y a plein d'autres trucs importants. Et je conseillerais, moi, aux parents d'être proactifs et de même d'aller voir, en fait, s'ils ont des doutes, s'ils regardent ta conférence, notre podcast. D'aller consulter d'eux-mêmes, en fait.
Bien sûr.
D'autres gens.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Et de ne pas attendre d'une personne qui renvoie, etc.
Ah oui, moi, je pense qu'il faut vraiment... Effectivement, il faut prendre des initiatives quand on est, quand on est inquiet, il faut prendre des initiatives. Parce qu'on le sait, on n'en a pas encore parlé, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais l'importance de la prise en soins précoce, c'est fondamental.
Toutes les neurosciences
le prouvent qu'il faut absolument intervenir le plus tôt possible parce que c'est là qu'on donne le maximum de chances de récupération.
Clairement.
Ça, c'est évident.
Et donc revenons-en à ce mur qui n'est pas fait complètement. à cause de la position assise quoi, dans laquelle on a mis le bébé un peu trop tôt, etc. Que se passe-t-il potentiellement à court ou moyen long terme ?
La constatation, c'est que quand on... Moi, j'ai vu énormément d'enfants qui étaient bloqués en position assise. Et beaucoup de ces enfants-là, lorsqu'on les met sur le dos, par exemple, ils ne savent pas se retourner du dos sur le ventre. Et alors, la position plat-ventre, pour certains, elle est juste impossible. Donc, un enfant, par exemple, qui n'est pas à l'aise en position plat-ventre, mais c'est un enfant que lorsqu'il, si on l'amène vers la position debout, autre erreur dont on parlera tout à l'heure, c'est un enfant, par exemple, qui potentiellement ne relève pas sa tête à plat-ventre. J'ai vu des enfants qui ne relevaient pas leur tête à plat-ventre. Donc, si ces enfants-là, grâce à la maturation cérébrale, marchent, ce sont des enfants qui ne vont pas être capables de se protéger quand ils tombent. Par exemple, ça c'est un exemple. Même chose lorsque l'enfant est en position assise. Un enfant en position assise bloqué, par exemple, il n'utilise pas ses membres supérieurs. Il utilise ses membres supérieurs pour manipuler, mais pas pour repousser. Donc là, même chose, un enfant qui est tout le temps assis n'arrivera pas, enfin, aura beaucoup plus de difficultés à se protéger en cas de chute qu'un enfant qui a fait du quatre pattes, qui a d'abord été à plat ventre et qui s'est repoussé pour s'asseoir. Donc voilà, typiquement, ce genre. Et puis, il y a tout l'aspect, il ne faut pas oublier l'aspect affectif, l'aspect émotionnel. On parle beaucoup de la théorie de l'attachement. Un bébé qui est bloqué assis, il a ses parents qui tournent autour de lui. Le parent sort de la pièce. Ce bébé, il peut être paniqué.
Bien sûr.
Parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas sortir de là. Alors qu'un bébé qui est serein, qui sait s'asseoir, qui repart, il sait qu'il peut aller à l'encontre du parent, donc il peut s'en éloigner. C'est ça aussi, hein, l'attachement. Hein. C'est je sais que je peux aller vers le parent quand j'en ai besoin et rester là où je veux quand j'en ai envie. Quoi.
Ouais, ouais, je vois bien. Et n'y aurait-il pas aussi des conséquences potentiellement, j'ai envie de dire neuro, mais tu sais, moi j'ai en tête, je suis pas mal inspiré par le courant des réflexes archaïques, etc. Mmh. Et je vois bien en quoi ce bug, ce mur non fini, peut entraîner une sorte de lacune dans la construction du système nerveux et des répercussions X ou Y au niveau neuro, entre guillemets. Mm. Et donc, il y a plein de gens qui expliquent, ou en tout cas qui prennent en charge les patients 10, les multi-10, etc., via le mouvement, via des méthodes Padovan ou des réflexes archaïques, tout ça. Voilà, j'aimerais te faire parler un petit peu sur ce lien entre développement moteur et développement neuro/cérébral, quoi.
Ben là, moi, je suis profondément convaincue justement que tout ce chemin-là, à partir du plado, ça, c'est un moyen de travailler la coordination, le lien entre la droite et la gauche, le lien entre le haut et le bas. Quand on voit un petit bébé, par exemple, qui attrape ses pieds, qui les met à la bouche, il va attraper avec la main droite son pied gauche, il va croiser ses axes, il va mobiliser son axe. Il va donc, et lorsqu'il est à plat ventre aussi, il fait énormément d'expériences de transfert d'appui. Il va se mobiliser l'ensemble de son corps et donc travailler forcément la coordination. Et il va utiliser tout ce qu'il a ressenti pendant ces phases-là pour pouvoir se déplacer. Et quand on voit par exemple un bébé se déplacer en roulant-boulant, analyser l'espace tout autour de lui, mais c'est évident que cet enfant, la conscience de son corps, il l'aura beaucoup mieux parce qu'il va toucher par exemple le sol avec toute la surface de sa peau. Donc l'image de son corps, elle va être très bonne. Il va avoir l'image, la notion de l'espace. Et donc il va se construire sur le plan global, la coordination aussi. Donc tous ces enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, attention, je ne vais pas dire qu'on va éviter les troubles du neurodéveloppement avec ça, hein, pas du tout. Mais par contre, qu'on limite les conséquences de ces troubles, ça me paraît évident. Et c'est vrai dans toutes les pathologies, notamment les pathologies neurologiques, comme les paralysies cérébrales ou tout ça. Juste un exemple par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la position assise. Imaginons un enfant qui a eu un enfant qui est grand préma, qui a eu, par exemple, qui a fait un AVC et qui a une hémiparésie. On ne la voit pas forcément tout de suite. On peut dire, non, ce bébé va bien, il a bien récupéré. Je ne parle pas des examens neurologiques, je parle de l'examen de l'observation. Un bébé qui a un déficit de mobilité d'un côté, Et bien ça, en observant le bébé sur le dos, on ne peut pas ne pas le voir. Ce bébé, il va par exemple toujours attraper son pied avec la même main. Il y aura une main qui va moins croiser l'axe. Donc ça, rien que ça, chez un tout petit bébé, on peut déjà l'observer. Quand il va être à plat ventre, il aura un moins bon appui d'un côté que de l'autre. Or, ces enfants-là, ça ne les empêche pas, pour certains, d'avoir une bonne tonicité axiale. Et ces enfants-là, on fait avec eux, comme on fait avec tout le monde, dès qu'on voit qu'ils tiennent leur dos, on les pose assis. Mais un enfant qui a une hémiparésie ou une hémiplégie, mais si on le pose assis, c'est dramatique. Parce que quand il est sur le ventre, quand il roule boule, quand il rampe, il utilise le haut de son corps. Mais là, il ne l'utilise plus. Donc, quand il y a une difficulté ou même une pathologie, c'est encore plus embêtant. Parce que l'enfant ne va pas intégrer la globalité de son corps. Et c'est pour ça que cette construction, elle est fondamentale. Peut-être j'aurai l'occasion de le redire, mais je le dis là parce que ça me tient énormément à cœur. Un bébé qui est au sol, il utilise tout son corps pour se déplacer. Il utilise du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ça bouge de partout, ça se mobilise dans tous les plans. C'est variable, c'est fluide, c'est complexe. Et ça, c'est extraordinaire pour la construction globale, hein. On reparle des troubles du neurodéveloppement. Donc le bébé qui n'a pas fait tout ça tout petit, bien sûr qu'on peut lui faire refaire après, et c'est jamais trop tard, hein. Mais autant qu'il le fasse au bon moment, au moment où physiologiquement ça doit se faire, et puis où les connexions cérébrales augmentent de manière totalement exponentielle.
Ouais, clairement, mais comme tu dis, on va peut-être parler après de comment faire ça si le mur n'a pas été fait, comment le reconstruire, enfin en tout cas le boucher entre guillemets plus tard. Mais ça me fait penser à, moi je travaille beaucoup dans le basket, et il y a beaucoup de grands dans le basket. Et en général, alors désolé pour les grands qui m'ont écouté, mais plus tu vas être grand, plus tu vas être manchot, quoi. J'abuse un peu, je simplifie. Et là, on a un Français là, qui s'appelle Victor Wembanyama, qui est un NBA, qui est très connu. Et lui, c'est marrant parce que je discutais avec son prépa physique l'autre jour et il me disait qu'il était très influencé par les théories d'un flex archaïque, etc. Et quand on voit les vidéos de Victor un peu de partout sur Internet qui s'entraîne, on le voit au sol, on le voit en train de faire des choses. On pourrait croire que c'est un combattant de MMA qui s'entraîne alors qu'il est basketteur. Et c'est vrai qu'il y a une motricité déjà de base assez importante et il continue de la travailler. Et ma question est, peut-on expliquer, enfin comment expliquerais-tu que les grands sont plus manchots que les petits de manière générale? Et ne faudrait-il pas insister plus sur ce type de travail au sol, même une fois qu'on marche, hein, chez les patients qui ont tendance à... qui vont être grands, quoi.
Alors, je pense que quand même, physiologiquement, quand on est plus grand, bah, c'est un peu plus compliqué, je pense. L'anatomie joue forcément dans l'aisance corporelle. Le fait d'être plus grand peut être une gêne.
Ok, mais comment, quelle est la différence entre Victor Wembanyama et je sais pas, Youssouf Fall. Désolé Youss, c'est un grand joueur qui a pas la même motricité que Victor, quoi. Ça a rien à voir. Qu'est-ce qui fait que l'un est très mobile, ils font la même taille, et que l'autre c'est un peu plus compliqué?
Alors effectivement, moi je suis profondément convaincu que on n'acquiert pas une aisance en position verticale en travaillant la verticalité. Je suis convaincu que tout ce qu'on peut faire au sol, ça fait intervenir tellement de parties du corps que c'est indispensable de coordonner tout ça. Ça ne peut se faire qu'au sol. Parce que au sol, on a quatre appuis. Enfin, quatre appuis. On en a plus, hein. Mais je veux dire, il y a l'appui surtout. Moi, ce qui me paraît fondamental, c'est l'intervention du haut du corps. Et je le dis souvent, ça, quand on regarde un athlète, justement, admettons, je ne connais pas assez les noms, je ne sais pas qui en ce moment est champion du 100 mètres. Mettons le champion
en ce moment,
je sais pas qui
on va dire Usain Bolt, c'est plus en ce moment.
Voilà,
mais
on va parler de lui. Bon, quand on le regarde faire un 100 mètres, c'est extraordinaire quand on les voit faire, ces athlètes. Le haut du corps mais est d'une mobilité extraordinaire. Et si ces athlètes n'avaient pas cette coordination entre le haut et le bas, mais ils ne pourraient pas être performants comme ils le sont. Et donc c'est là où, pour moi, le déplacement, mais c'est vraiment tout le corps qui se déplace. C'est le haut et le bas du corps qui se déplace de manière coordonnée.
Pour les coureurs de 100 mètres, ils sont très très gainés. Il n'y a pas énormément de mouvement, hormis dans leurs bras. Ben, ils ont quelque chose de très fixe au niveau central.
Oui, mais leurs bras. Leurs bras, on ne peut pas imaginer faire une course sans utiliser les bras.
Ah non, oui, non.
Donc si on ne l'a pas fait au sol, ça sera beaucoup plus compliqué. Et évoluer au sol pour le tout petit, mais c'est vraiment une garantie de bien-être corporel, de coordination, parce qu'il est obligé de coordonner le haut et le bas de son corps en même temps.
Ouais, c'est intéressant. Tu connais Ido Portal ?
Non.
Ça ne m'étonne pas. Mais c'est intéressant parce qu'il y a plein de théories qui se recoupent. Ido Portal, c'est un Israélien qui a popularisé ce qu'on appelle le mouvement naturel. Et en fait, c'est une philosophie de vie, mais l'idée, c'est d'avoir le moins de chaises possible, etc. Mmh. Puis de pouvoir utiliser son corps de manière optimale, quoi. Mmh. Et donc, il y a plein d'exercices basés sur du mouvement au sol. Il y a des exercices de jonglage, pardon, très connus. Mais bref, il y a plein aujourd'hui, c'est très très à la mode dans le monde de la prépa physique, ce que tu dis là, sauf que toi t'as 50 ans de carrière, t'es kiné, t'es pas du tout dans le sport, donc c'est intéressant en fait de faire ce parallèle.
Ah mais moi je le fais complètement, hein. Et pour moi depuis, on en a parlé plusieurs fois du terme bon sens, hein. mais pour moi c'est ça, hein. Et vraiment, je me dis que quand on observe les bébés, il y a vraiment qu'au sol que c'est hyper riche en termes de mobilité globale.
Et du coup, en termes d'éducation, on pourrait imaginer, alors sans trop de violence, mais mettre de la lutte ou des choses comme ça en sport dès la primaire, à 3-4 ans, ou ça les inciterait peut-être à la bagarre, je ne sais pas.
Moi, je parlerais beaucoup plus simplement.
Parcours, en fait.
De parcours de grimpe, ouais. Mais grimper avec les quatre appuis. Un truc, moi, ce que j'utilise le plus dans ma rééducation chez les tout-petits, c'est de grimper les escaliers. Une des, on va dire, originalités peut-être de ce que je propose, c'est avant que le bébé marche, c'est le faire grimper partout. Lui faire monter les escaliers à quatre pattes, le faire descendre, monter sur un canapé, redescendre, monter sur une chaise, enjamber, tous ces exercices-là qui nécessitent énormément de coordination. En plus, c'est très ludique. Les enfants adorent ça. Ils peuvent le répéter. Et un enfant, même s'il ne marche pas, est tout à fait capable de faire énormément d'expériences. Et c'est comme ça que petit à petit, le mur continue à se construire. Je voudrais revenir à la dernière, une des dernières, il y en a peut-être d'autres, mais erreur, on n'est pas allé jusqu'au bout des erreurs tout à l'heure. Il y a la position assise, mais alors il y a la position debout et la marche. C'est-à-dire, alors j'ai parlé un petit peu de la position debout tout à l'heure chez le tout petit bébé, mais chez un enfant un peu plus grand. Dès qu'on voit, allez, il a 10 mois, bah tiens, il faudrait qu'il marche maintenant ce petit, il faudrait qu'il marche avant le petit voisin. Et donc on va inciter le bébé, on va le mettre debout, alors qu'il ne sait pas se mettre debout tout seul. Donc ce bébé va être content, les parents aussi vont être contents qu'il soit debout, qu'il tienne sur ses jambes, sauf que s'il n'y est pas arrivé tout seul, bien là aussi, il n'aura pas la liberté de travailler cette position debout sans l'adulte. Donc il va être debout que en présence de l'adulte, ça peut créer une dépendance. Et puis après, eh bien, on va l'inciter à marcher, on va le prendre avec les deux mains au-dessus de la tête pour le faire marcher. Et là, c'est pareil, comment voulez-vous vous protéger si vous avez les bras en l'air et que vous suspendez aux mains des parents ? Et je reviens toujours, toujours au départ de ce qu'on disait. L'important, c'est de libérer la motricité du bébé pour que lui, il s'entraîne toute la journée. Qu'il roule boule, après qu'il rampe, qu'il fasse du quatre pattes et qu'il puisse tout seul expérimenter. Ben voilà, je me mets à genoux, je suis capable, je me mets debout, donc je peux redescendre. Et ça, c'est lui qui va s'entraîner toute la journée. S'il y a des choses qu'il ne peut faire qu'avec l'aide de l'adulte, il ne va pas pouvoir le reproduire, ou alors il va devenir tyrannique parce qu'il va toujours demander à l'adulte de l'aider.
Dans cette idée-là, moi, l'autre jour, c'était marrant. Mon petit, il s'appelle Marius, il tombe par terre, puis moi, ce que je fais quand il tombe, je regarde une seconde ou deux s'il ne pleure pas, et s'il ne pleure pas, je le laisse faire, en fait, je le laisse se relever. Et l'autre fois, il tombe en plein sur le trottoir, et du coup, je le regarde, puis je voulais qu'il se relève, quoi. Puis il y a quelqu'un qui vient et qui essaye de le relever, et du coup, j'ai empêché la personne, j'ai dit non. Et exactement. Puis il s'est relevé tout seul, puis en fait, lui, il s'en fout, quoi.
Ouais. Il faut qu'il... Voilà, on doit laisser l'enfant trouver. Comment on apprend ? Quelle que soit la chose qu'on apprend, hein. Essai, erreur, réussite. Ben, le bébé, il fait ça à longueur de temps. Il essaye, quand il est sur le dos, de passer sur le ventre. Il n'y arrive pas du premier coup. Il va réessayer. Puis après, il va y arriver. Et une fois. Puis après, la prochaine fois, il n'y arrivera pas forcément du premier coup. Et donc, l'idée, et c'est là où Amy Pickler a énormément apporté, c'est justement de laisser l'enfant trouver. Et c'est comme ça qu'il va prendre confiance en lui aussi. Ça fait partie des choses importantes. C'est que le bébé va prendre confiance en lui, va se dire « je suis capable » et ça c'est fondamental. Le bébé qui tombe effectivement dans la rue doit pouvoir se relever tout seul.
Ouais, hein, ça me paraît, ouais, encore une fois, du bon sens. Et oui. Je trouve que plus on t'entend parler, plus on s'intéresse à ce sujet, ben, plus on a une sorte de vision, plus on comprend la philosophie globale du développement. Et après, dans telle ou telle situation, ben, on a les principes, donc on se dit, bon, on va faire ça, quoi. Mmh. Et tu vois, c'est pas que des techniques, c'est vraiment des principes, et au-dessus des principes, une philosophie, au final.
Mmh. Oui, complètement.
T'es d'accord ?
Oui. Parce qu'effectivement, il y a certaines techniques dans nos prises en soins, bien sûr qu'il y a une technique pour aider un bébé à se retourner, par exemple. Mais la technique, elle vient d'où ? Elle vient de l'observation. Comment je vais aider un bébé à se retourner ? J'essaye de regarder comment un bébé se retourne, et puis je vais proposer au bébé qui n'y arrive pas tout seul, eh bien, c'est de la préparation physique, hein. Je vais lui faire les préliminaires, entre guillemets, pour que cet enfant, eh bien, de toute façon, un bébé qui ne relève pas ses jambes sur le dos, il ne pourra pas se retourner. Donc, s'il ne sait pas faire tout seul, je vais jouer avec lui, je vais lui montrer ses pieds, je vais l'aider à enrouler de son bassin pour qu'il puisse se retourner.
Oui, bien sûr. Non, évidemment.
Donc ça, c'est vraiment la construction, mais la construction, elle se fait sur l'observation.
Ouais. Pour moi, c'est une petite parenthèse aussi, mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre un bon préparateur physique ou un bon thérapeute et un thérapeute moyen, c'est qu'il y en a qui vont être que dans de la technique, mais qui ne vont pas avoir la vision globale, l'objectif final en tête. Et il y en a qui vont être dans de la technique, qui peuvent être dans de la technique, mais avec une chape de philosophie par-dessus, ce qui crée une cohérence dans tout ce qu'ils font dans leurs séances, dans chaque technique. Elle est faite pour quelque chose, etc., avec une intention particulière. Et pour moi, c'est cette cohérence, ce schéma global complet qui fait les bons et les moins bons, quoi. Je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais...
Oui, je suis assez d'accord, en effet. Pour compléter ça, par exemple, pour que les gens comprennent bien ça, par exemple, un enfant qui ne tient pas bien debout, on peut être tenté de lui faire travailler son équilibre debout. Hein, voilà. Sauf que s'il ne sait pas arriver debout tout seul, s'il ne sait pas se mettre debout tout seul, donc on lui fait faire un exercice, entre guillemets, trop tôt.
On oublie des briques de la maison.
On oublie la brique. Alors que si, au lieu de lui montrer comment tenir debout, si on lui donne la liberté de se mettre debout tout seul et surtout de revenir au sol, eh bien lui, en se mettant debout, commence à travailler son équilibre. En revenant au sol, travaille son équilibre. Mais surtout, il va avoir la liberté de recommencer plusieurs fois dans la journée. Et c'est comme ça qu'il va travailler sa position debout. Ce n'est pas en sollicitant la position debout d'un enfant qui ne sait pas se mettre debout qu'on va l'aider. C'est pareil pour la marche, c'est pareil pour tout.
Effectivement. Et donc là, j'ai un petit cacni. Comment expliquerais-tu, du coup, ça va être assez simple, en 15 secondes, 20 secondes, allez, admettons, à un patient, petite dédicace à un patient ami qui s'appelle Yves, et qui avait sa petite là qui ne savait pas marcher, qui l'avait mis dans un espèce, pas un youpala, mais un truc où... une espèce de trampoline qui lui prend les fesses, puis elle était contente, elle était dans son trampoline alors qu'elle marchait pas encore, mais tu vois, prise au niveau du bassin. Tu vois le genre de truc ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
Avec un truc stable, la roulette tout autour.
Je vois tout à fait.
Et comment expliquerais-tu à Yves, donc son papa, que son jouet, là, c'est de la merde ?
Je lui dirais pas ça, d'ailleurs.
Évidemment.
Mais je lui expliquerais, justement. Je lui dis, bon, ok, l'enfant est content. L'enfant est content, il saute sur ses jambes, ok. Mais que fait le haut de son corps ? Lorsque l'enfant n'aura plus autour de lui cet instrument, alors on lui donne le plaisir d'être en position verticale, cet enfant. Sauf que s'il ne sait pas y arriver tout seul. Et si, justement, quand un bébé se met debout tout seul, il se met debout avec l'appui sur ses mains. Là, il n'y a pas d'appui sur les mains. Donc cet enfant, potentiellement, quand il va être debout, c'est un enfant qui n'aura pas la possibilité de se protéger. Je pense que ça, c'est le truc qui me paraît le plus important à dire, c'est la protection. Parce que tout le reste est très important aussi. Mais ce qui parle peut-être le mieux aux parents, c'est cette histoire de savoir se protéger. Mais c'est une chose, mais il y a tout le reste hein, qui est fondamental, toute la coordination, toute la construction du schéma corporel.
Et s'il te dit oui, mais là, regarde, elle travaille ses jambes et tout, elle muscle ses quadriceps, elle apprend à pousser, c'est bien, etc.
Non.
Comment tu rétorques ?
Non, j'ai dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on a... Alors, alors bien sûr qu'elle saute sur ses jambes, mais elle est soutenue par une culotte, donc ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui compte ? C'est la poussée à partir du sol. Et c'est pas à partir de l'air, je sais pas comment expliquer ça.
C'est
mais
pas la gravité qui...
Voilà.
C'est pas de la biométrie quoi, qui est importante.
Là, l'enfant, il va... se muscler. Je fais souvent le lien avec les haltérophiles. Un haltérophile, qu'est-ce qui est difficile chez l'haltérophile, entre autres, hein, je suis pas assez compétente, mais entre autres, c'est un haltérophile qui va saisir son... je sais plus comment on appelle ça. Sa barre. Il est accroupi. Ce qui est compliqué, c'est de repousser le sol avec ses jambes, de déplier les jambes pour arriver debout. Et dans un deuxième temps, il va déplier les bras. Donc, c'est ce geste de repousser le sol qui va muscler ses jambes. Il ne va pas muscler ses jambes en sautant. Il va muscler ses jambes d'abord à partir de l'accroupi, en repoussant le sol pour arriver à jambes tendues. Donc, c'est le bébé, il va muscler ses jambes de cette manière-là, en partant du sol, et non pas en étant suspendu sur une culotte. Et puis, donc, il y a tout l'aspect hein, du haut du corps qui ne travaille pas du tout.
Ouais, ça me paraît assez clair. Et il y a quelque chose qu'on entend souvent, et j'aimerais savoir si tu l'as remarqué. Je ne sais pas si c'est pour se rassurer aussi, mais on nous dit souvent ah oui, ben ce petit bébé il marche pas encore, mais son langage se développe bien. C'est soit le langage, soit la motricité, quoi. Et moi je me dis bon, il y a quand même moyen de développer les deux, quoi, non ?
Bien sûr.
Ok.
Bien sûr. Au contraire. Alors bien sûr que effectivement, d'abord on évolue. Chaque être humain est différent. Je dis ça souvent, mais il y a des enfants qui naissent avec des cheveux, il y a des enfants qui ont des dents très tôt, il y a des enfants qui, voilà, qui sont gros, qui sont plus menus. Voilà, on est tous différents hein, et on naît avec un potentiel qui est différent, heureusement, d'un enfant à l'autre. Et puis malheureusement, il y a aussi des pathologies hein, là-dedans. Donc on n'évolue pas tous de la même manière. Et donc... voilà, il y a des enfants qui vont aller plus vite dans le langage, dans voilà. Mais ça n'empêche que un enfant, ça n'a rien à voir. Moi, j'irais même dire que un enfant qui va explorer l'espace, qui se déplace partout dans la maison, il entre en lien et ça va l'aider aussi à développer son langage. Donc, dire que l'enfant ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. C'est une erreur et ça n'est pas forcément prouvé par les études. Hein. Un enfant peut très bien babiller beaucoup et bouger. Et il faut se méfier avec ça parce que dire ça peut retarder des prises en soins. Oh, mais il parle très bien, donc bah, on va dire c'est, oh, bah, il est flemmard, lui. Voilà. Non, un enfant n'est pas flemmard, c'est pas vrai. S'il ne bouge pas, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange.
Ok, et là, ouais, il faut vraiment être dans la nuance de « ok, chacun va à son rythme, mais en même temps, il faut prendre en charge quand même, quoi. »
Ah ben oui. Quand on voit un enfant qui n'entre pas dans sa motricité, quand un enfant a 5 mois, on voit un bébé qui est sur le dos, qui bouge peu, qui n'attrape pas, enfin qui ne relève pas en tout cas son bassin pour pouvoir décoller un petit peu son bassin et pour regarder ses pieds, s'il est comme une étoile de mer par terre, là non, c'est embêtant. Un bébé qui a 2-3 mois, s'il est posé sur le ventre, n'arrive pas à dresser sa tête, voilà, ça nous interpelle.
Ouais, hein,
il y a quand même des choses qui sont fondamentales. Et le bébé, il doit bouger dans tous les plans, ça doit être beau à voir, et il doit bouger aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça, c'est important, la symétrie aussi. Hein, un bébé dont on voit, alors les parents parfois ils disent ah c'est bizarre quand je l'habille j'ai du mal à enfiler toujours le même côté ou il se sert pas du même il y a un côté dont il se sert peu, ça doit toujours mettre des drapeaux rouges hein, parce que encore une fois il vaut mieux prendre en soin un bébé pour rien que de se rendre compte quand il a un an ah ben il est toujours assis, ah oui il tient bien assis depuis qu'il a 9 mois sauf qu'il bouge pas.
Ouais, complètement. Est-ce que les assistantes maternelles, les nounous, sont formées à ça ? Parce que moi, j'ai toujours, Je me suis toujours dit, ouais, j'espère qu'on aura une place en crèche. Donc, on a galéré comme tout le monde. Mais là, Marius, il a la crèche. Donc, je suis content. Mais ouais, ça m'aurait embêté. Ou alors, il aurait fallu que je sois rassuré par la nounou. Mais l'idée que le petit soit avec deux autres petits chez une nounou, je l'imagine facilement rester dans un coin et avec une nounou un peu... on dit les tantes, quoi. Mmh. Est-ce qu'elles sont formées à ça? Est-ce qu'elles sont
elles
sensibles
sont
à ça?
Elles sont de mieux en mieux formées.
Ouais.
Moi, j'ai énormément travaillé avec les assistantes maternelles depuis plus de 40 ans maintenant. Elles sont de mieux en mieux formées. Et puis, il y a aussi maintenant ce qu'on appelle les relais petite enfance. Ce sont des structures qui les accompagnent et qui, on leur propose des formations. Moi, je fais par exemple des ateliers auprès de la petite enfance où on les informe. Elles sont de mieux en mieux formées.
Ouais,
c'est
vrai. De toute façon, c'est comme tout. J'imagine qu'il y a des nounous absolument géniales, puis d'autres qui sont
tout à fait
très mauvaises, comme dans tous les domaines, quoi. Ok, quelle est la place de l'ostéopathie dans toutes ces histoires-là, s'il y a une place, hein, selon vous?
Ah oui, moi, je pense qu'il y a vraiment une place. On parle beaucoup maintenant des enfants qui ont des déformations crâniennes. Alors, ça, je le dis souvent, moi, je pense qu'il faut, chacun d'entre nous, on est un maillot d'une chaîne. Hein, et il faut que chacun d'entre nous trouve sa place, mais sa place. Lorsque l'enfant est en difficulté, les parents, ils ont beaucoup le réflexe d'aller chez l'ostéopathe. Pour le moindre truc, il pleure, il a la tête tournée du même côté, etc. Donc, ils vont chez l'ostéopathe, c'est très bien. Mais on est complémentaires. L'ostéopathe, il va lever une tension, c'est parfois indispensable, et donc c'est très important. Sauf que si, derrière, il n'y a pas tout un travail de rééducation qui est entrepris, la tension, elle va être levée, mais elle peut revenir. Il faut que l'image corporelle du mouvement ou de la posture, elle soit modifiée. Et ça, elle ne peut être modifiée que par la répétition. C'est pour ça qu'on est complémentaires. Moi, je trouve vraiment important que l'ostéopathe fasse son travail, mais qu'il oriente après vers de la rééducation, parce que nos métiers sont différents, nos métiers sont complémentaires. Et je ne suis pas certaine qu'à elle seule, l'ostéopathie puisse résoudre, par exemple, les problèmes de plagiocéphalie. La rééducation, elle est indispensable.
Ouais, clairement, non, mais ça,
elle
je pense que des ostéopathes formés seront tous d'accord là-dessus, quoi.
Oui.
Clairement.
Oui.
Et si, pour ceux qui écoutent, si vous entendez un ostéo, mais même, c'est valable dans tous les domaines, un ostéo qui dit, oh non, la kiné, c'est pas top, machin, c'est nul, ça sert à rien, ou un kiné qui dit l'ostéo, ça sert à rien. Enfin, ces gens-là, à mon avis, n'ont pas trop compris.
Oui. On est complémentaires.
Le système global. Ouais. Ok. C'est parfait. Mais oui, effectivement, il suffit pas de libérer quelque chose qui coince s'il n'y a pas de répétition, de rééducation derrière, c'est du travail un peu gâché, quoi. Mmh. Et vice-versa, travailler, faire 15 séances de kiné sur une structure qui bloque en profondeur, c'est dommage.
Bien sûr. Ouais.
Merci pour ces précisions.
J'ai un sujet que je n'ai pas abordé.
Abordons-le.
qui me tient à cœur énormément, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler peut-être. C'est que les enfants qui sont bloqués assis, du coup, ça fait lien avec ce qu'on vient de dire. Un enfant est bloqué assis, ce qui arrive relativement régulièrement. À mon avis, si cet enfant a une pathologie, c'est encore pire, parce que lui, le pauvre, on le prive encore plus d'expérience. Mais le parent peut être tenté d'aller chez l'ostéopathe. Et pourquoi pas? Très bien. Sauf que même si l'ostéopathe va faire son travail, va débloquer certaines choses probablement, mais ce n'est pas ça qui va permettre au bébé, s'il est bloqué assis depuis longtemps et qu'il ne sait pas se retourner, eh ben, il faut construire derrière.
Oh bah c'est sûr.
Il faut, voilà, donc ça ne va pas me débloquer les choses d'aller chez l'ostéopathe, donc on est complémentaire. Mais un enfant qui est bloqué assis peut, un enfant c'est un être vivant, il a envie, c'est un être en mouvement, il veut se déplacer. N'importe lequel d'entre nous, quand on ne peut pas se déplacer, c'est vraiment un problème. Donc, il est un petit peu... il commence à se dire... Enfin, à ressentir une frustration parce qu'il ne peut pas se déplacer. Et du coup, petit à petit, il va se remettre à tourner un petit peu sur ses fesses et puis, à un moment donné, à glisser sur ses fesses pour se déplacer. Or, le déplacement de glissement sur les fesses, franchement, là aussi, c'est du bon sens. c'est vraiment pas un déplacement, qui travaille la coordination, qui travaille la coordination entre le haut, le bas, la droite et la gauche, qui travaille le mouvement des membres inférieurs est vraiment tout sauf fonctionnel. Il ne fait pas travailler le haut de son corps. Donc, beaucoup, on lit beaucoup ça. Ah ben, il choisit. Il choisit le quatre pattes ou il choisit le déplacement sur les fesses. Mais il subit ce déplacement sur les fesses. Comment peut-on dire que c'est un déplacement? Alors, la seule fonction que ça va lui donner, c'est d'aller d'un endroit à l'autre. C'est tout. Mais par contre, un enfant qui se déplace sur les fesses, alors c'est une image que je dis tout le temps. Hein. On le met dans une caisse, parce qu'il n'est pas capable d'aller dans la caisse tout seul. Mais il va y rester. Hein. Il ne peut pas sortir d'une caisse. Alors qu'à cet âge, à ce stade-là de la motricité, celui qui fait du quatre pattes, il va prendre un plaisir fou à rentrer dans une caisse et à en sortir. Et donc, pourquoi il peut faire ça? Parce qu'à quatre pattes, on coordonne le haut, le bas, on franchit, on fait des dissociations, et c'est un jeu de grimper partout, de franchir des obstacles. Mais un enfant qui est sur ses fesses et qui glisse, mais il est frustré d'énormément de choses. Et donc là aussi, bien sûr, alors je suppose que certains ostéopathes ont en consultation des enfants, par exemple, qui se déplacent sur les fesses, ça retarde hein, l'installation de la marche. Et les parents se disent, je vais aller voir l'ostéo, peut-être que l'ostéo va débloquer. Mais ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. C'est que le schéma corporel et les expériences n'ont pas été faites. Donc ces enfants-là sont vraiment des enfants à prendre en soin, à rééduquer. C'est très difficile. Parce que le chemin est vraiment compliqué. La reprogrammation, elle est vraiment très, très difficile chez ces enfants-là. Et à plus forte raison s'ils ont une pathologie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose...
Merci pour ce message.
Qui est décrit comme quelque chose souvent de banal. Et c'est vraiment pas banal de se déplacer de cette manière-là.
Tout à l'heure, on regardait un peu les podcasts que j'avais fait, et t'es resté sur un titre, c'était le podcast de Fanny, qui était « Quelle est la place de l'intuition dans un monde dominé par la science ?» Et tu m'as dit « Ah, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi ?»
ça me parle énormément parce que j'ai dû commencer à... Les premiers écrits que j'ai faits, c'était dans fin des années 80... dans 90, ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et j'ai toujours, quand j'ai commencé à proposer des formations, il y a 12 ans maintenant, pourquoi j'ai essayé de faire ça? C'est parce que j'avais envie de transmettre quelque chose qui me paraissait du bon sens et de la logique, mais par contre, qui était peu décrit. Et je me suis dit, bon... Voilà, je vais partager ce que j'ai observé. Je ne suis pas une scientifique. Donc, je ne passe pas mon temps à lire toutes les publications et à lire... parce que voilà, je pense qu'il faut connaître ses limites. Je les reconnais. Je ne suis pas quelqu'un qui serait capable de donner des explications scientifiques et je ne passe pas mon temps dans la littérature. C'est ma faiblesse, j'en suis tout à fait consciente. Par contre... Je pense vraiment, et finalement, tout ce qui sort depuis quelques années en arrière, quelques années là, l'éducation thérapeutique, c'est pas si vieux que ça, hein. Moi j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça, mais c'est pas si vieux que ça. L'importance justement de tout ce chemin, tout ce que ça apporte à l'enfant sur le plan global, j'ai l'impression que tout ça, maintenant ça commence justement à être prouvé par la science. Depuis longtemps, hein, les prises en soins précoces, il y a très très longtemps qu'on le dit, mais les neurosciences ont fait énormément de progrès hein, depuis 10-15 ans. Et je trouve que c'est indispensable, bien sûr, la recherche, les statistiques, etc. Mais je trouve dommage que les personnes qui proposent des études ne soient pas suffisamment sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'on apprend. Je vais donner un exemple très clair. J'ai eu l'occasion une fois d'écouter des chercheurs qui veulent, je ne sais pas si ça a été fait cette étude, mais notamment pour les enfants porteurs de trisomie 21, qui sont des enfants très hypotoniques, savoir si en entretenant le réflexe automatique de la marche, ces enfants pouvaient marcher plus tôt. Et ça, ça m'a vraiment interpellée. Parce que la première des choses, c'est que la marche, c'est pas le plus important de marcher à 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le chemin et c'est d'être à l'aise dans son corps. Donc, entretenir un réflexe automatique pour que l'enfant marche plus tôt, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que, encore une fois, l'âge de la marche, c'est pas le plus important dans la vie. Le plus important, c'est que l'enfant soit à l'aise dans son corps et surtout puisse utiliser le haut de son corps. Et donc, si, justement, moi, ce que je souhaiterais, c'est que les chercheurs, ils aillent sur le terrain, qu'ils aillent voir dans les crèches comment ça se passe et choisir leur... encore une fois, c'est indispensable à la recherche. Mais qu'on aille vers le terrain pour savoir ce que l'on va chercher. Et moi, je rêverais, par exemple, d'une étude scientifique, et je crois qu'elle n'a pas été faite, celle-là, pour savoir combien d'enfants sont positionnés assis et combien d'enfants restent assis, n'arrivent pas à se sortir tout seuls de leur position assise et les conséquences que ça peut avoir pour eux. À ma connaissance, c'est quelque chose... Parce que les gens ne sont pas sur le terrain. Et donc, et là, maintenant, avec l'evidence-based practice, on met ça en évidence. L'expertise clinique, la recherche et les valeurs du patient. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ça. Donc, oui, c'est bien de passer plein de temps à chercher les études qui ont été faites. Ça me paraît indispensable. Mais il faut aller sur le terrain aussi. Il faut qu'on soit complémentaires, là encore. Donc, c'est pour ça que ça m'a interpellée. C'est parce que moi, on m'a beaucoup dit, oui, mais tout ce que tu racontes, ça n'est pas prouvé scientifiquement. Mais il y a beaucoup de choses qui sont prouvées maintenant sur le plan neurologique, sur le plan de la construction, de la maturation cérébrale, l'importance des prises en soins précoces. Maintenant, tout ça, c'est dit, l'importance de la répétition. Il y a énormément de choses maintenant qui sont
dites. Qui est-ce qui te dit ça ? Ce que tu fais, c'est pas prouvé, etc. Quel type de profil de personne tu dis ça ?
Notamment les scientifiques. Et puis, justement, je trouve qu'on a quand même un petit peu de difficulté dans le milieu médical à convaincre de l'importance de ce chemin et à convaincre de l'importance de la prise en soins précoces. Ça, c'est... on va attendre, on va le laisser, on va lui donner le temps à ce petit. Mais oui, mais lui donner le temps, c'est... Ce que j'ai entendu plusieurs fois, on va lui donner la chance de trouver tout seul. Mais on lui enlève des chances si on attend. Il faut écouter les parents. Si le parent, c'est celui qui connaît le mieux son enfant. Donc si le parent est inquiet, si le parent... Mais ok, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a certains parents qui sont trop inquiets. Mais en attendant, si quelque chose les interpelle, il faut les écouter. Et il vaut mieux faire une prise en soin pour rien que se dire plusieurs mois après si on avait su.
Ouais, surtout que les gens qui te disent que ça, c'est pas scientifique, comme s'ils avaient l'étendue de la science devant eux et qu'ils savaient tout, alors que non, pas du tout. Ils sont juste là à dire ça, c'est pas scientifique, etc. Mais je suis en train de lire le livre La vie solide. Je sais pas si tu connais, non. C'est un livre qui est partout en ce moment. Et c'est l'histoire d'un philosophe qui est devenu charpentier. Et en fait, il explique bien tout ce rapport à la matière, ce rapport au concret, au terrain, la richesse de ce terrain-là et le monde qu'il y a entre le terrain et les ingénieurs, enfin les cerveaux qui sont à guider. Je ne sais quel autre projet. Et bref, je trouve que la notion d'efficacité thérapeutique, de résultat, nous en ostéo, on a des résultats, on doit avoir des résultats en tout cas souvent au bout de 45 minutes maximum. Et voilà, évidemment, on n'explique pas tout ce qu'on fait, mais en fait, moi, je suis obsédé par le résultat et je pense que si on lâche pas ce petit truc, est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est pas scientifique, certes, on s'y intéresse à ça, mais il faut lâcher un petit peu, sinon on n'avance pas en fait en tant que thérapeute. Et ouais. Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement, mais ça me paraît vraiment important, quoi.
Moi, je me dis que, encore une fois, c'est indispensable, hein, parce qu'on ne peut pas non plus avancer des choses sans avoir une preuve. Mais peut-être le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que plutôt que de... Et je pense qu'il y a un chemin qui est, d'après ce que je sais, Par exemple, pour les étudiants en kiné, on insiste beaucoup dans leur mémoire de faire une revue de la littérature. Et bon, bien sûr que c'est intéressant de faire une revue de la littérature, mais la littérature n'explique pas tout, et la littérature, comment dire, certaines études parfois sont biaisées. Je me souviens, il y a très longtemps en arrière, je lis quelquefois ça parce que je trouve que c'est assez typique, une étude qui mettait, qui calculait la vitesse de la marche d'un enfant. Et d'un enfant qui a appris à marcher. Et pour moi, ça n'a pas de sens d'étudier ça. Parce que qu'est-ce qui compte quand un enfant se déplace debout à trouver la marche autonome? C'est quand même le chemin qui précède. Ça ne sera pas du tout la même chose si cet enfant a été placé dans un Yupala. On n'a pas parlé du Yupala tout à l'heure. C'est une des grosses erreurs qu'il ne faut pas faire maintenant. On en parle davantage. Mais si le bébé a passé des semaines dans un Yupala, puis qu'il se met à marcher parce que sa maturation fait qu'il est capable de marcher, mais il a fait aucune des étapes précédentes ou très peu, ben, sa marche, elle ne sera pas la même que celui qui a roulé boulet partout, qui s'est mis debout, qui a grimpé les escaliers. Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est l'aisance corporelle. Et donc faire une étude sur la vitesse, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il faut, on a parlé beaucoup de bon sens, mais le bon sens et les recherches scientifiques me paraissent, mais il faut que ça aille ensemble. Je pense que c'est vrai pour tout. Hein.
Clairement. Bon bah c'est top. Merci pour
tout ça. Je voudrais juste une dernière chose pour conclure.
Avec plaisir.
Bah, vas-y, on conclut. C'est que pour moi, l'important... Alors, bien sûr que l'être humain, c'est ce qu'il distingue de d'autres mammifères, c'est qu'il est en capacité de se déplacer debout sur ses deux jambes. Et Dieu sait si c'est important, effectivement, de se déplacer debout sur ses deux jambes. Et que quand on ne peut pas le faire, c'est vraiment un handicap, etc. Mais ça, c'est fondamental, la capacité à se déplacer debout sur ses deux jambes. Mais il ne faut pas voir ça comme le Graal. Bien sûr que c'est fondamental, mais il faut mettre au même niveau tout le chemin qui va amener à ça. Parce que si on ne considère que la marche, on considère que je pose un pied après l'autre et effectivement je peux me déplacer debout, je peux aller... Mais un enfant, par exemple, dans une maison, un enfant à l'intérieur, il peut être totalement autonome sans marcher. En roulant, très tôt, hein. En roulant, en grimpant, en faisant du quatre pattes, en revenant au sol, etc. Et ça, c'est fondamental. Si on parle de développement optimal, ben son développement optimal, il peut l'avoir grâce à toutes ces expériences qu'il peut faire avant la marche.
Ouais. Et puis, si les gens veulent plus d'infos, ils peuvent quand même, de toute façon, je ferai passer ton livre, ils peuvent lire ton livre, De la naissance au premier pas. Tu as la conférence, ta fameuse conférence sur YouTube qui est... extrêmement connu, qui est accessible en tapant Michel Forestier sur YouTube, c'est la première qui ressort.
Oui.
Et puis voilà, ça fait déjà pas mal de contenu.
Et à mon site aussi.
Et à ton site, ouais.
Voilà.
Ouais.
Et puis je peux parler aussi quand même juste des formations.
Oui, bien sûr.
Des formations que je propose aux kinésithérapeutes et aux psychomotriciens, des formations de 5 jours. Et puis il y a aussi une formation que je propose maintenant de 2 jours. C'est une formation... que je proposais essentiellement aux ostéopathes au début. Et finalement, j'ai eu l'occasion de faire cette formation de 2 jours avec du personnel autour de la petite enfance, des éducateurs de jeunes enfants, des sages-femmes, de toutes des puéricultrices. Et j'en ai fait 2 ou 3 comme ça, mais ça a été hyper riche, les échanges entre ces différentes professions. Alors, c'est sûr que la formation pour la rééducation en 5 jours, il faut largement ça pour pouvoir... Mais par contre, la formation de 2 jours, les personnes qui y assistent, on va beaucoup plus loin, ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais l'interaction entre les différentes professions, elle est vraiment intéressante. Je pense aux ostéos, par exemple, tu vois. Les ostéos, vous êtes comme nous, hein, vous avez des consultations ponctuelles. Et le fait de bien connaître comment fonctionne un bébé en dehors des séances au cours desquelles les enfants sont à notre présence, c'est drôlement intéressant d'avoir des apports différents, des points de vue différents de toutes ces professions. Voilà.
Ouais, clairement. Et je me permets de te dire que je trouve ça vraiment très pertinent. On parle de l'importance des gens qui sont dans l'environnement des bébés. Et en fait, ces gens-là, moi, je pense encore une fois à la crèche. Toutes ces personnes qui s'occupent petits dans la crèche, c'est pas que c'est elles qu'il faut former, mais il faut les former. Parce qu'on parle de l'importance de la précocité, de l'importance de, entre guillemets, diagnostiquer les choses vite. Et en fait, si on va chez le kiné, c'est déjà que le process est enclenché depuis un moment, quoi. Enfin, pas qu'on est dans les pathologies, mais en fait, je pense qu'il faut vraiment former les gens du terrain en même temps que former les kinés, etc. C'est bien, mais vraiment les crèches. Peut-être qu'il y a des crèches qui... S'il y a une crèche, par exemple, la crèche où il y a Marius, bon, après, ils ont toujours des problèmes de budget, j'imagine, mais c'est possible de te faire venir ?
Ah, bien sûr. Là, actuellement, on est en train de développer ça, justement. Moi... Encore une fois, si je suis là, c'est parce que j'ai été en lien avec les crèches et les assistantes maternelles.
C'est cohérent, quoi.
Ah oui, sinon, moi, j'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris. Hein. Et j'ai énormément travaillé. Si j'ai fait mon livre, si j'ai fait tout ça, ça a été en premier grâce à la petite enfance. Et pour la petite enfance. Parce que j'ai commencé par donner des conférences ça fait bientôt 40 ans maintenant. mais c'est à la demande de la petite enfance. C'est ce travail de collaboration qu'on a fait ensemble qui m'a beaucoup construite et qui m'a aidée justement dans mes prises en soins. Et puis qui m'a aidée aussi à... Parce que voilà, ma formation s'était essentiellement tournée vers la pathologie et le handicap. Mais il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas des handicaps majeurs, mais qui sont en difficulté. Et ces enfants-là, ils ont un petit grain de sable qui les dérange. Parfois, c'est une pathologie, mais justement, ces enfants-là, si sous prétexte, ben voilà, ils tiennent assis, bon, le handicap n'est pas majeur, on le voit, eh bien, on les laisse de côté, mais on les prive de chances énormes.
Et super.
C'est vraiment c'est pour ça que je trouve que cette formation de 2 jours, elle est assez intéressante, parce qu'il y a cet échange-là, chacun apporte son point de vue.
Et tu fais pas de la... Parce que 2 jours, j'imagine que mobiliser le personnel pendant 2 jours, c'est impossible, mais tu fais pas de la... Comment dire l'accompagnement de terrain en temps réel, etc., de manière à ce que les gens qui travaillent n'aient pas quitté leur poste et t'écouter.
Si, ça je le propose. Alors, on va le développer. Bon, maintenant, c'est plus moi qui le ferai trop, parce que... voilà, j'avance en âge. Mais ça m'arrive de faire... Je l'appelle ça des ateliers. Alors, des ateliers avec des assistantes maternelles, par exemple, où plusieurs assistantes maternelles viennent avec des enfants et puis on observe le bébé. Je peux le faire en crèche aussi, où on est sur le terrain, on est là avec le personnel, et puis concrètement, on dit, ben voilà, on observe le bébé. Quand il y a plusieurs bébés de différents âges, et puis je leur apprends à regarder le bébé. Donc ça, c'est complémentaire.
De la même manière que moi, je pourrais aller dans une entreprise et dire, toi, tu as tel poste de travail, ok, mets ça plutôt là, mais par contre, essaye de faire tel exercice, parce que là, tu es dans cette position, ouais. Donc toutes les pauses, toutes les 2 heures, tu peux faire ci, tu peux faire ça, le matin, tu peux t'échauffer comme ça, être renforcé comme ça.
Oui.
C'est vraiment intéressant, en fait.
Ah oui, c'est vraiment intéressant. Et puis, on apprend beaucoup. Hein. Moi, je dis toujours, je continue à apprendre. Hein. Je continue à apprendre, à analyser, à réfléchir. Et c'est l'échange entre différentes professions, c'est super intéressant.
Parfait. Donc, on te contacte. Certes, tu prends de l'âge, mais tu es encore active. Donc, on te contacte sur ton site. On dit, on écoutait le podcast avec Étienne. C'était top, merci.
Voilà, par exemple.
Est-ce que vous pouvez venir ? Ok, ouais. Super. Allez, parfait, merci, on va s'arrêter parce que là, le temps passe. Il faut que je rentre à Lyon, j'ai des consultations là toute l'après-midi.
Merci puis, beaucoup en tout cas.
Avec plaisir, c'était un plaisir et puis peut-être une prochaine, pas loin.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Avec plaisir. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé jusqu'au bout ». Donc pour booster ce projet qui a pour but de te donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Étienne Bulidon et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Loïc ou Mathéo qui te prendra en charge. À bientôt et bonne fin de journée. Ciao.